Vous êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un message du club Jésus pour réussir, enregistré lors du culte d'adoration, de louange et d'enseignement hebdomadaire qui y est donné tous les dimanches à 19h. Le club est situé à Sainte-Rita, au-dessus de Alibert, au bord des pavés de Sainte-Rita, à 3 rues de la station MRS en direction de Fifadji. Nous sommes joignables par téléphone au 94 97 07 07 ou au 96 98 36 36. Vous êtes donc les bienvenus au culte de ce soir à 19h qui est d'entrée libre et totalement gratuite. Soyez bénis.
Pour une divine année 2015. Et je prie pour que cette année, le Seigneur vous accorde une seule chose. Et cette chose est celle autour de laquelle le Seigneur m'a inspiré de bâtir ce premier message de l'année. Je prie pour que le Seigneur vous donne en 2015 une totale communion avec le Saint-Esprit. Qu'il vous donne une année de totale communion avec le Saint-Esprit. Pour certains, cela peut paraître un vœu qui n'est pas intéressant. Et je le sens à la faiblesse des applaudissements. Moi, je ne suis pas un artiste, je n'étais pas en train de réclamer des applaudissements. Moi, je ne mange pas les applaudissements. Donc, je ne vous demandais pas des applaudissements. Je constatais simplement un fait. Qui ne me déçoit pas, qui est simplement la preuve que Dieu va faire quelque chose cette année. À la fin de cette année, si quelqu'un vous souhaite ça, vous comprendrez ce que je vous ai souhaité. Je me répète donc, je ne vous souhaite qu'une seule chose. Et si quelqu'un veut me souhaiter quelque chose cette année, c'est la seule chose que je veux qu'on me souhaite. Je veux vous souhaiter une année de totale communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur a fait de très, très grandes choses dans notre vie, dans ce ministère cette année. Nos témoignages sont illimités. En une journée, on ne pourra pas les terminer. Même si moi-même, je dois seulement témoigner, une journée ne me suffira pas. Parce qu'il n'y a pas une seule journée en cette année où Dieu ne fait pas révélé puissamment à moi. Il n'y a pas une seule journée où la présence de Dieu m'ait fait défaut cette année. Il a fait trop de choses pour moi. Il n'a pas seulement fait ce que je lui avais demandé en début d'année, mais il a fait infiniment plus que ça. Et si il n'avait exaucé que mes vœux en début d'année, j'aurais été très malheureux. Il a fait des choses qui n'ont pas toujours été agréables. Il a même fait des choses qui étaient très douloureuses. Mais si c'était à recommencer, je voudrais vivre exactement 2014 comme elle a
été.
Il n'y a pas une seule journée de 2014 que je regrette, que je voudrais changer. Au début de l'année dernière, parce que nous devons avoir de la suite dans les idées avec le Seigneur, nous avions été inspirés à prophétiser que ce serait l'année de l'expansion. Et notre père spirituel, Mamadou Kahambiri, avait prophétisé une année d'accomplissement. Et ces deux thèmes se rejoignaient en fait. Et si vous voyez tous les messages de l'année, ils ont travaillé à l'accomplissement, à l'expansion. Moi y compris, quand on disait expansion, je voyais surtout expansion matérielle. Et tous, autant que nous sommes, nous voyons surtout une expansion dans des choses matérielles, dans les choses de la vie de tous les jours. Mais pendant les 80% de l'année, cette expansion a semblé absente de la manière dont nous la cherchions ou l'attendions. C'était une série d'épreuves et de difficultés qui avaient de quoi décourager ceux qui n'avaient pas une grande foi. Écoutez bien ce message parce que toute votre année va se jouer à ce message. Parce qu'au début de chaque année, Dieu donne la direction de l'année. Et ça fait un peu plus d'un mois que j'ai reçu la direction de cette année. Et tout à l'heure, vers 19h, j'ai été inspiré à appeler le Burkina Faso. Vous savez, c'est là-bas qu'il y a mon père spirituel, Mamadou Kahambiri. Et donc, je me suis dit, mais j'espère que j'ai bien compris le sens que Dieu veut donner à l'année. Et comme je sais que lui aussi se connaît au Saint-Esprit qui va donner un sens à l'année, le Saint-Esprit va lui parler, j'ai voulu savoir, avant qu'il ne parle à minuit dans les coulisses, qu'est-ce que Dieu lui avait révélé pour l'année
2015?
Et quand j'ai entendu, j'ai sauté de joie, je dis alléluia, je suis bien connecté. Dieu m'a révélé de placer cette année sous le signe de la communion avec le Saint-Esprit. Et quand j'ai appelé Kahambiri pour demander quel était le thème, qu'est-ce que Dieu lui a révélé pour cette année? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous note aussi que Oyedepo, lors de son dernier Shiloh, a placé l'année sur un thème qui rejoint encore cela. Il a dit, cette année, Dieu mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas.
Alléluia.
Ces trois choses vont dans la même direction. Et je peux vous dire ceci. Celui qui ne comprend pas ça, il va manquer ce que Dieu veut faire l'année 2015. Écoutez-moi très très bien. Parce que vous feriez mieux de bien comprendre. Dieu n'est pas votre serviteur. Il ne fait pas ce que vous voulez.
Et il
ne fait pas tout ce que vous lui demandez. Sinon, depuis longtemps que vous priez, il y a beaucoup de prières qui auraient été
exaucées.
Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il n'est influencé que par son propre conseil. Dieu ne fera jamais ce que vous voulez si ce n'est pas ce que lui il veut. La plus grande erreur et la plus grande bêtise que nous les chrétiens nous faisons, la voici. Nous croyons qu'il nous suffit de vouloir n'importe quoi et de le présenter à Dieu et qu'il y a des chances que Dieu nous exauce. C'est faux.
Vous
faites comme si Dieu était votre serviteur. Si tu prends ta domestique, elle fait tout ce que tu veux.
Maintenant,
patron ne fait pas tout ce que tu veux. Il fait ce que lui veut. Et quand tu es en train de faire ce qu'il t'a commandé, il t'aide dedans, mais il ne fait pas ce que tu veux. Les chrétiens traitent Dieu comme leur domestique fournisseur de bénédictions. Vous passez commande de bénédiction, comme on dit à un domestique, va prendre de l'eau, va amener mes chaussures, va donner à manger. Vous croyez que Dieu est votre serviteur? C'est vous qui êtes les serviteurs de Dieu. C'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. C'est pas lui qui est notre serviteur. Mais celui qui décide ce qu'on va faire, c'est pas le serviteur. C'est le Seigneur. Quand Josué voulait rentrer à Jéricho, et Jéricho c'est la terre de la promesse, c'est le lieu où coule le lait, le miel, c'est le lieu que vous rêvez d'atteindre. Quand vous naissez de nouveau, quand vous devenez un vrai chrétien, c'est quand vous êtes sorti d'Égypte. Dieu vous a libéré de Pharaon, parce que l'Égypte représente le monde. L'Égypte était le plus grand des empires, un empire riche et puissant, mais dans lequel les enfants de Dieu étaient des prisonniers et souffraient au milieu de l'abondance du plus grand royaume du monde. De même, regardez le monde aujourd'hui. Le monde n'a jamais été aussi riche. La technologie n'a jamais été aussi avancée. Le monde n'a jamais été aussi moderne qu'aujourd'hui. Mais l'homme n'a jamais autant souffert qu'aujourd'hui. Vous êtes des prisonniers comme les Juifs au milieu de l'abondance. Plein d'immeubles poussent, plein de belles voitures rentrent dans Cotonou. Les gens ne savent pas quoi faire de l'argent, mais vous n'avez même pas le minimum. Il en est toujours comme ça quand vous êtes dans le monde. Jusqu'au jour où quelqu'un va vous sortir du monde. C'est ce que Moïse a fait avec le peuple juif. Et quand vous allez traverser la mer Rouge, c'est-à-dire l'eau du baptême, vous serez hors de portée de Satan. Ensuite, vous allez traverser le désert. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui fait toujours traverser le désert. Quand Jésus a été baptisé, il a passé 40 jours dans le désert. Quand Paul a été appelé, il a passé 3 ans dans le désert. Quand David a été loin, il a fui des dizaines d'années dans le désert. Quand Abraham a été appelé, il a passé toute sa vie dans le désert. Jacob a passé toute sa vie dans le désert. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Quand Dieu vous appelle, il vous entraîne dans le désert. Il dit, je vous attirerai dans le désert pour parler à votre cœur. Quand tu viens à Jésus, il ne te rend pas à Jéricho le même jour. Parce que tu n'es pas programmé pour Jéricho. La mentalité de la souffrance, la mentalité du monde t'a déformé. Si Dieu te sort du monde et te rend dans la gloire, la gloire va te détruire. Donc quand Dieu prend quelqu'un dans le monde, il lui fait traverser le désert. Et dans le désert, il le corrige. Il se révèle à lui. Il lui montre ses lois. Il lui apprend à ne pas se plaindre. Il lui apprend à se le louer. Il lui apprend à patienter. Il lui apprend à ne pas murmurer. Il lui apprend à lui faire confiance. Jusqu'au jour où vous êtes prêts. Jusqu'au jour où vous allez avoir assez de foi. Parce qu'il va vous montrer la gloire. Mais quand vous êtes sorti du monde, vous ne croyez même pas la gloire. Quand vous montez Jéricho, vous dites franchement, il y a des géants, moi je ne peux pas aller là-bas. Tu es un pauvre depuis toujours. Si Dieu te dit maintenant, tu vas être milliardaire demain, tu vas rire. Tu as dit, c'est trop beau pour être vrai. J'ai dit, je veux 100 000 francs de salaire. Toi, tu veux être milliardaire. Non, tu n'es pas prêt à Jéricho. Tu n'es pas prêt à Jéricho. Celui qui est prêt à Jéricho, quand Dieu lui dit, demain matin, tu seras milliardaire, il dit, si c'est Dieu qui a dit, ça va se passer. Il regarde sa vie en même temps.
Amen, non, amen, non, amen, non.
Mais vous n'êtes pas prêt à Jéricho. Ce n'est pas votre faute. Quand nous sortons du désert, nous sommes tous comme ça. Et Dieu le sait. Donc il vous fera passer le désert. Je fais cette parenthèse pour vous dire que le désert n'est pas l'enfer. Tout le monde passe par le désert. C'est le camp d'entraînement de Dieu pour la gloire. C'est dans le désert que tu grandis et que tu gagnes ce qu'il faut pour entrer dans la gloire. Mais beaucoup de gens meurent dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre ce que Dieu voulait leur apprendre. Une génération de juifs est morte dans le désert alors que Dieu voulait qu'ils rentrent à Jéricho parce qu'ils ont été têtus, ils ont été bornés. Ils ont passé tout leur temps à se plaindre au lieu d'accepter de voir la main de Dieu de le suivre. Je prie pour que personne ici ne meure dans le désert. Vous allez traverser le désert. Nous traversons tout ce désert. C'est inévitable. Mais dans le désert, nous devons avoir une attitude. C'est la louange. C'est la joie. Quand tu es à l'école, c'est pas parce qu'on veut te faire souffrir. C'est parce qu'on veut te donner des diplômes. Et quand tu veux un grand diplôme, l'école est plus dure. Quand tu veux avoir le diplôme, tu ne pleures pas le jour de l'examen. Les chrétiens veulent avoir la gloire. Mais quand vient l'épouse qui donne la gloire, ils commencent à pleurer. Donc nous allons devoir passer dans le désert avant de rentrer dans la gloire. Mais quand ils voulaient entrer enfin dans la gloire, quand Josué voulait rentrer à Jéricho, c'est pas Josué qui a fait tomber les murs de Jéricho. Les murs étaient trop épais, étaient trop grands. Josué ne pouvait rien faire. Personne, aucun homme ne pouvait rien faire. Alors quand tu as l'impression que tu ne peux rien faire, que tu ne sais pas quoi faire, c'est normal. C'est le contraire qui serait surprenant. Nous les hommes, nous voulons croire, nous voulons sentir que nous pouvons. Et quand nous ne pouvons pas, nous sommes découragés. Mais nous ne pourrons jamais. Dieu ne nous a pas créés pour pouvoir. Il est clair. La foi là, c'est pas de croire ce qu'on veut. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que vous croyez ce qui vous plaît au lieu de croire sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Si tu espères ce qui te plaît, c'est ton problème. Il y a la foi quand tu espères ce que Dieu a dit. Si tu espères ce que tu veux, ce n'est pas de la foi, c'est de l'espérance. Tu espères. C'est bon d'espérer. Tu as le droit d'espérer. Mais tes espérances n'engagent pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il va honorer toutes tes espérances. La foi, c'est la ferme assurance de ce que Dieu a dit. Tu peux prier n'importe comment. Tu peux jeûner 1000 années. Tu ne peux pas me dire que c'est de la foi. Quand tu crois ce que tu veux, c'est ton problème. La foi, c'est si tu reçois. une prophétie. Tu croises quelqu'un. Dieu me dit de te dire, avant décembre, tu seras marié, tu auras un enfant. Ça te fait rire. Un mois après, tu vas par exemple au Niger. Tu croises un musulman, un liseur de bonnes nouvelles. Hein? Je ne sais pas qui vous êtes, hein. Donc vous allez être marié, avoir de l'enfant avant la fin d'année. Si de deux ou trois manières différentes, confirmées par la parole de Dieu et par la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur, Dieu te dit qu'avant la fin de l'année, il va te donner un enfant, une femme, et que tu as la preuve que c'est Dieu qui a parlé, là ça devient la foi. Tu peux y accrocher, tu peux avoir une ferme assurance, et tu peux démontrer que tu l'attends. Tu peux commencer à faire ton trousseau. Tu peux commencer à préparer ton mariage. Parce que c'est Dieu qui a parlé. La foi commence quand Dieu a parlé. Beaucoup de gens sont déçus parce qu'ils croient en ce qu'ils veulent et pas en ce que Dieu a promis. Je vous souhaite cette année de ne rien vouloir que Dieu ne vous a pas promis, sinon vous allez souffrir pour rien. Le problème est le suivant. Dieu ne va jamais faire ce que vous voulez. Pourquoi? L'homme n'est jamais libre. Il n'y a pas d'homme libre. C'est pour ça que Paul dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme. Mais nous devons combattre les esprits qui les animent. Un homme est comme une voiture. Il n'y a pas de voiture qui se conduit lui-même. Toute voiture a un chauffeur. Ce que la voiture fait ne dépend pas de la voiture. Ça dépend de qui la conduit. C'est pour ça qu'en cas d'accident, on n'enferme pas les voitures. On enferme les chauffeurs. Ce que tu fais, ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux. C'est ce que je suis inspiré à faire. C'est ce que l'esprit me fait faire. Il n'y a que deux esprits qui agissent. Ou c'est le Saint-Esprit de Dieu, ou c'est l'esprit de Satan. Tu te réveilles. Tu as envie de faire le bien, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu ne veux pas faire le mal, mais tu te vois en train de le faire. Ça veut dire que ce que tu fais ne dépend pas de toi. Tous les jours, tu décides des choses que tu n'arrives pas à faire. Et tous les jours, tu détestes des choses que tu fais. C'est pas toi, c'est le diable qui te fait faire, ou c'est Dieu qui te fait faire. Est-ce que vous me suivez? L'homme n'est pas libre. Il est toujours conduit par Dieu ou par le diable. Quand il est sous l'influence de Dieu, c'est-à-dire quand il est en communion avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui détermine ce qu'il fait. Et là, il porte les fruits de l'Esprit. Il manifeste l'amour, il a la joie, il a la foi, il a la piété, il a la patience, il a la maîtrise de soi. Celui qui fait ces choses ou qui a ces choses, tu sauras que c'est le Saint-Esprit qui est au volant de sa vie. Mais quand quelqu'un est méchant, il est jaloux, il est cupide, il est paresseux, il est sournois, il est hypocrite, il est orgueilleux, il est vantard. Quand quelqu'un fait tout ça, c'est pas lui. Tu vas savoir que Satan est en train d'être au volant de sa vie. Le problème, c'est quoi? Satan est un invité sans carte. Il n'a pas besoin d'être invité. Mais Dieu, lui, il se respecte. Il dit, je me tiens à la porte de ta voiture. Je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je vais rentrer et je vais prendre le volant. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Pas besoin d'invoquer Satan, il répond toujours. Donc, par défaut, Satan est au volant de ta voiture. Et aucune voiture ne peut sortir un chauffeur. Quand tu te lèves, tu disais, fini, je ne vais plus me prostituer. C'est fini, je ne vais plus boire. C'est fini, je ne vais plus mentir. C'est comme si la voiture dit que le chauffeur est mauvais, je vais la sortir. Tu connais une voiture qui peut sortir un chauffeur? Est-ce qu'une voiture peut sortir un chauffeur? Voilà pourquoi toutes tes résolutions ne donnent rien. Aucun homme ne peut sortir le diable de sa vie. Comme aucune voiture ne peut sortir un conducteur. Il faut un conducteur pour sortir un conducteur. Si je viens, je suis un braqueur, je dis toi dehors, je prends le volant. Ou bien, la seule manière que le diable quitte ta vie et arrête de conduire ta vie, c'est que Jésus vienne et dit bouge là. On m'a invité. Je viens m'asseoir. Et la seule personne qui a la force de détrôner Satan de ta vie, c'est Jésus. Donc si tu fais le malin, si tu niaises comme la plupart des gens, en croyant qu'avec des vertus morales, de bonne conscience, des résolutions, tu peux reprendre le contrôle de ta vie, tu te fous le doigt dans l'œil. Toute ta vie, tu vas essayer en vain. Jusqu'à ce que tu finisses en enfer. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus. C'est le seul qui a vécu Satan. C'est le seul dont Satan a peur. Quand lui vient, il peut prendre le commandement. C'est pour ça que quand Josué voulait entrer à Jéricho, lui ne peut rien faire au mur. Comme toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, par ce que nous pouvons. Nous sommes sauvés par la grâce. Grâce et gratuit sont du même radical. Tu n'as rien à faire pour ça. Tu ne le payes pas. Tu n'as rien à faire pour naître, non? Tu ne fais rien pour respirer, non? Tu ne fais rien pour dormir, non? Tu ne fais rien pour digérer, non? Tu ne fais rien pour que ton cerveau fonctionne. Tu fais quoi pour respirer? Alors pourquoi quand je dis que tu n'as rien à faire pour réussir, tu es surpris? Tu fais quoi pour que ton sang circule? Tu fais quoi pour te réveiller le matin? C'est pas par la grâce? Alors pourquoi quand quelqu'un te réveille par la grâce, tu fais maintenant le malin de vouloir gérer la suite toi-même? Tu ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire. La plus grande bêtise de l'homme, c'est de croire qu'avec des résolutions, il peut faire. Tu ne peux rien faire. L'homme ne peut rien faire. Nous ne pouvons être sauvés que par la grâce de Dieu. Cadeau de Dieu. Il nous a créés. Il nous aime. Il veut qu'on se porte bien. Tout ce qu'il faut pour ça, c'est lui seul qui peut le faire. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il se respecte. Si quelqu'un ne l'invite pas, il ne vient pas s'en mêler. Donc lui seul peut te sauver. Si tu acceptes de te sauver, il dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Car nous devons avoir foi en lui. Qu'il existe, qu'il est le rémunérateur, ceux qui le cherchent, et lui tend la main pour accepter sa grâce, pour recevoir le cadeau du salut. Et c'est ce salut gratuit qui peut sortir Satan de notre vie, installer Jésus au commandement de notre vie. Et c'est quand Jésus est au commandement de ta vie qui peut amener ta vie là où il veut. Satan ne peut pas être en train de conduire une voiture et l'amener au paradis pour que la voiture au paradis, il faut que Jésus soit le chauffeur. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est que nous avons fait de Satan le chauffeur et nous disons à Dieu d'amener la voiture au paradis. C'est-à-dire que Dieu dit tourne à gauche, Satan dit tourne à droite. Tu tournes à droite et tu es surpris d'être dans le feu. Tu es surpris d'avoir des problèmes. Tu es surpris d'avoir des problèmes. Tu es surpris d'avoir l'hypertension. Tu es surpris d'avoir l'ulcère. D'avoir des palpitations. Celui qui a créé ton corps a dit de pardonner, d'oublier. Toi, tu fais la rancune. Quand tu laisses Satan conduire ta voiture, par quelle magie tu crois aller en paradis? Quand je dis année de communion avec le Saint-Esprit, je veux dire année où Jésus est le chauffeur de ta vie. D'habitude, tu laisses Satan au volant de ta voiture Et tu supplies Dieu d'amener ta voiture au bonheur. Comment il peut faire ça? Tu fais tes projets. Tu demandes à Dieu de bénir. Le problème, c'est quoi? Si ce n'est pas Dieu qui conduit ta vie, si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, c'est que c'est Satan. Donc, toutes tes envies viennent de Satan. Tes paroles viennent de Satan. Tes projets viennent de Satan. Donc, Satan fait des projets et tu demandes à Dieu de les bénir. Si toi, tu es Dieu, tu vas bénir. Nos pensées ne peuvent pas être inspirées par Satan et que Dieu bénisse nos actions. Quand je dis année de communion avec le Saint-Esprit, je dis année où c'est Jésus qui conduit tes pensées. C'est lui qui conduit tes paroles. C'est lui qui détermine tes actions. Si c'est lui qui te conduit, il te conduira là où il est. Mais lui, il est quoi? Il est le prince de la paix. Il va te conduire dans la paix. Il est le maître de l'or et de l'argent. Il va te conduire dans le coffre fort. Il est la vie. Il va te donner la vie abondante. Il est le bon berger. Il prendra soin de toi. Il est l'éternel Dieu des armées. Mais qui peut te vaincre quand lui conduit? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Mais tu laisses Dieu de côté, tu donnes le volant à Satan et tu demandes à Dieu de te protéger. Tu demandes à Dieu de te bénir. Ça ne peut pas marcher. Dieu dit cette année, je ne veux plus bénir les gens comme ça. Je veux prendre le commandement. Quand Josué voulait entrer à Jéricho et que l'ange de l'Éternel est arrivé, l'épée de la parole à la main, et c'est lui qui a fait tomber le mur de Jéricho. Josué lui dit, es-tu venu combattre pour nous? Est-ce que tu es venu nous aider? Vous vous demandez certainement si Dieu est venu vous aider en 2015. La réponse de Dieu est cinglante. Non. Il a dit à Josué, non. Je ne suis pas venu combattre pour toi. Dieu ne combattra pas pour toi en 2015. Dommage. Et heureusement. Il dit, je suis venu prendre le commandement. Dieu ne viendra pas aider ta voiture avec Satan au volant à aller loin. Il viendra prendre Satan par le col, il fout le camp et je prends le commandement de cette voiture-là. Si tu acceptes que Dieu prenne le commandement, tout le reste suivra. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Ce sont les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui s'inquiètent pour ces choses-là. Il a dit ces choses-là. Mais regardez bien. Il n'a pas dit, vous n'en avez pas besoin. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Dieu sait que vous en avez besoin. La Bible dit que l'argent répond à tout. Et si Dieu est le maître de l'or et de l'argent, c'est que l'argent a quand même sa valeur. Donc Dieu n'a pas dit que vous n'en avez pas besoin. Il sait que vous en avez besoin. Mais qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement, d'abord, le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Mais vous n'en tenez pas compte. Nous laissons le royaume de Dieu. Nous laissons la justice de Dieu. Et nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Et nous courons pour les choses. Ah, il dit que si nous sommes en communion avec lui, c'est les choses qui courront après nous. Salomon,
Salomon,
quand il a fait un sacrifice d'obéissance à Dieu, Dieu dit, tu veux quoi? Il dit la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. La crainte de Dieu. Quand il a eu ça, Dieu lui a donné forcé la gloire et la prospérité en plus. Vous ne pouvez pas chercher l'argent. Vous ne pouvez pas chercher mari. Vous ne pouvez pas chercher voiture, chercher emploi et chercher ces choses-là. Contentez-vous de donner le commandement de votre vie à Jésus. Donnez-lui le volant de votre vie. Et ces choses-là vont vous poursuivre, vous serez étonnés. Regardez dans le Nouveau Testament. Avec les actes des apôtres et tout le reste. Dieu sait le nombre de prières que les apôtres ont fait que nous lisons dans la Bible. Où est-ce que vous les avez vus prier pour avoir l'argent, pour que quelqu'un, une femme, un enfant ait à manger, ne dorme pas dehors? Vous avez vu ça où dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Vous avez vu quelque part où les apôtres priaient pour un besoin matériel? Nulle part il y en a. Dieu dit quoi? Ils étaient dans l'amour. Parce que celui qui a l'amour a Dieu. Parce que la foi est agissante par l'amour. Ils étaient en communion les uns avec les autres. Parce que Dieu dit que là où deux ou trois d'entre vous êtes assemblés, je suis là au milieu de vous. Ils priaient. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et donc Dieu était au milieu d'eux. Et ils étaient abondamment bénis de manquer de
Dieu.
C'est ça la parole de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas être allé à l'église des dimanches et réciter tout le temps ses revendications à Dieu. Dieu dit de ne pas le prier pour des besoins matériels. Parce que ce n'est pas utile. Mais il sait que tu en as besoin. Est-ce que l'oiseau prie avant de manger? Est-ce que l'arbre prie avant d'avoir les nutriments pour grandir? Mais Dieu vous a dit, les oiseaux ne s'aiment pas. Ils ne récoltent pas. Ils ne prient pas. Mais Dieu s'occupe d'eux. Vous êtes plus important que des oiseaux. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu as besoin de jeûner pour que Dieu s'occupe de toi? Nous devons, si nous voulons compter sur Dieu, faire les choses comme Dieu a dit de les faire. Il n'a pas dit de prier pour mendier les besoins. Il a été obligé de dire, mais vous les hommes méchants là, est-ce que vous vous faites supplier pour pouvoir besoin de vos enfants? Quand midi sonne là, est-ce que les enfants demandent à manger avant qu'on leur donne à manger? Et est-ce que maman prend plaisir à ce que ses enfants pleurent 3 heures de temps en étant en train de l'adorer, de la louer avant de leur donner à manger? Quand un enfant est malade, il doit prier et supplier sa maman avant d'être traité. Si ton papa a une maison, tu le supplies avant qu'il te donne une chambre dedans. Alors, si les hommes méchants donnent tout ça à leurs enfants avec plaisir, pourquoi vous croyez que Dieu doit nous torturer avant de nous le donner? Quand tu es dans la maison de ton père, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureux. Tous les problèmes des adultes là viennent le jour où ils ont quitté la maison de leur papa en croyant qu'ils étaient grands. Quand tu es chez ton papa, on ne vient pas enlever tôle ou bien porte de ta chambre. Ce n'est pas des problèmes qu'on a quand on est chez son père. C'est quand vous sortez de chez votre père et vous faites le malin, quand vous commencez à gérer les faux problèmes. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu es chez ton père, tu es parti pourquoi? Tu trouvais qu'il était devenu trop compliqué de l'obéir, puis les parents ont trop de lois. Je suis fatigué. Quand ton papa veut t'obliger à vivre bien, tu dis bon, c'est fini, moi je suis grand, je pars. Et quand tu pars maintenant, tu connais la vraie couleur de la vie. Et c'est ça l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible. Les hommes ont fui la maison de Dieu, ils veulent plus entendre parler de Dieu, plus entendre parler de la Bible, qu'on ne leur parle plus de Dieu. Ah oui. C'est la modernité, l'émancipation, la libération, Sion. La dépravation. Sion. Et vous êtes dedans, vous souffrez, Sion. Vous continuez de souffrir dedans.
Aine.
Tant que tu es hors de la maison de ton père, tu vas souffrir. Si tu ne veux pas souffrir, tu oublies ton orgueil. Tu te fais petit et tu reviens à la maison. Parce qu'il vaut mieux pour toi être chez ton père et lui obéir que de vagabonder, de souffrir par orgueil. Cette année, Dieu veut que ses enfants reviennent à la maison. Qu'ils reviennent parce que lui, il a tout. Et vous avez béni de toutes les bénédictions des lieux célestes. Nous, vos prières qui disent Seigneur, envoie-moi mari, envoie-moi femme, envoie-moi agent, alors que vous n'obéissez pas à Dieu, c'est comme celui qui a fugué pour ne pas obéir et qui maintenant dans la fugue dit à papa de lui envoyer les provisions, l'argent de course, le chauffeur pour quelques courses. Qu'est-ce que ton papa va se dire? Il va dire, si tu as fini par l'appeler pour demander, c'est que ça commence à chauffer. Si tu tiens un peu le coup, tu vas finir par revenir parce que tu vas craquer. Il va dire à ta femme, tu as vu? Elle a appelé. Bientôt, elle va venir à la maison. Attends un peu. Tes problèmes là, Dieu s'en réjouit. Il dit, voilà, que ça chauffe. Quand le monde va bien chauffer pour lui ou elle, elle se rappellera que je l'attends ici. Et j'espère qu'il reviendra à la maison. Et c'est là où la Bible nous dit, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour vous entendre. Sa main n'est pas trop courte ou trop faible pour te bénir. Mais il est en train de patienter calmement afin que tout le monde se répande. C'est-à-dire qu'il est en train d'espérer que tu vas finir par comprendre et revenir à la maison. Et quand tu reviens à la maison, et tu le veau gras, le ciel tout entier est en fête. Chaque fois qu'un enfant perdu de Dieu revient à la maison pour avoir la paix. Parce que vous devez savoir que vos problèmes honnissent Dieu. Dieu est plus pressé que vous de vous bénir. Vos problèmes glorifient Satan. Regardez aujourd'hui. Si tu ne peux pas dire à un homme que Satan n'existe pas, tout le monde sait que Satan existe. Parce qu'on voit dans nos vies que Satan est fort. Ou bien. Mais pourquoi les gens doutent de Dieu? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la vie desquels on voit la puissance de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Le monde est pressé de voir dans ta vie que Dieu est grand. C'est ta vie qui doit permettre aux gens de dire: le Dieu de la fille est grand. Le Dieu de ce type est grand. Si ce n'est pas Dieu, non, ce type-là peut pas être marié aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu, oh, cette fille-là ne peut plus être vivante aujourd'hui. C'est comme quand vous faites un accident. Et puis un titan passe sur votre moto, vous écrase. Et tout le monde se dit que là, ces cadavres vont ramasser. Vous sortez sans aucune égratignure. Les gens disent en même temps: quel Dieu tu adores. Dieu veut à travers ta vie démontrer sa puissance. Quand tu es malade, tu démontres que Satan est fort et que Dieu est faible. Tu renies Dieu. Quand tu es pauvre, tu renies Dieu. Tu dis, je suis l'enfant du maître de l'or de l'argent. Et tu es pauvre. Tu renies Dieu. Cette année, Dieu veut que tu reviennes à la maison. Et il m'a dit une chose importante. Il m'a dit, dis-le que je suis miséricordieux. Qu'est-ce qu'on appelle la miséricorde? Je vais vous l'expliquer avec une petite histoire. Parce que beaucoup de gens font les malins. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas en Dieu. Et puis, je joue les intellectuels, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas besoin de Dieu. Il donne l'impression d'être trop dur, de ne pas avoir besoin de Dieu. Et Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit non, il ne faut pas que ça t'énerve. C'est des grands peureux seulement. Je dis peureux comment? Et Dieu m'a révélé ça. Il m'a dit ceci. C'est comme si un enfant est en train de jouer. Son papa lui a dit de ne pas jouer au ballon dans la maison. Il jouait au ballon dans la maison et il a joué le ballon sur le pare-brise de la voiture de son papa. La voiture toute neuve que son papa vient d'acheter. Et un pare-brise de 500 000 a été déchiqueté par son ballon. Et sa maman lui dit, tu connais son papa, il va te tuer. L'enfant regarde ça. Il dit, je vais attendre papa va me tuer maintenant. Satan aussi dit, si tu attends, il va te tuer, tu le connais, il va te tuer. Comme c'est un petit enfant, il n'est pas très mature. Satan lui dit, fuis, c'est mieux. Il prend un petit sac, il prend son téléphone portable et il sort de la maison. Et il commence à marcher, il ne sait pas où il va. Il va voir des mendiants quelque part. Ils vont avoir pitié de lui donner à manger, à boire. Il va commencer à vadrouiller comme ça. Il va tomber dans un club de bandits. Ils vont le récupérer, ils vont l'initier. Et il va commencer comme ça une vie de débauché, de malheureux sous les ponts. Parce que simplement, il a cassé le pare-brise de son papa, il a fui. Maintenant, quand le papa arrive à 19h, quand il voit le pare-brise cassé, il dit, je l'attends pied ferme. Il prépare sa chicotte. Il sait que tout n'y va revenir. Là, le papa est vraiment en colère. 20h, l'enfant ne vient pas. 21h, l'enfant ne vient pas. 22h, l'enfant ne vient pas. À ce moment, la maman commence à pleurer. Elle commence à dire, c'est à cause de toi maintenant qu'elle est partie. Il faut me trouver mon enfant. Là, les parents commencent à se disputer. La maman, elle a déjà peur, ne le cache même pas, elle est déjà en train de pleurer, de prier. Là, le papa fait encore le dur. Le 23h, ne voit pas l'enfant. Il n'est plus dur, il commence à être calme. Minuit, il ne voit pas l'enfant. Il commence à être inquiet. 1h du matin, il prend le téléphone, il commence à appeler ses amis, commissaire, l'hôpital. À 3h du matin, le papa et la maman sont tous les deux en train de pleurer, ils cherchent l'enfant. Si l'enfant ne vient pas pendant 3 jours, le papa et la maman ont maigri. Et si cet enfant ne revient plus, plus jamais il n'y aura la joie et la paix dans cette maison jusqu'au jour où l'enfant reviendra. Mais l'enfant continuera de fuir en disant, mon papa me cherche, si jamais il me croit, il va me tuer. Alors que déjà à minuit, l'envie de le tuer a été déjà passée à son papa pour être remplacée par la peur pour lui. Vous me comprenez? C'est exactement notre histoire avec Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'avait même pas encore parlé. Quand ils ont commencé à fuir, ils sont partis se cacher parce qu'ils se savaient nus. Quand Dieu est venu, il a encore dit, où êtes-vous? Il a commencé à les chercher. C'est encore lui qui a fait des vêtements de quoi pour les protéger parce qu'il n'avait que des feuilles. Il avait des feuilles qui protègent. C'est lui qui a encore mis un saut sur eux pour les protéger. C'est Dieu qui est encore venu s'occuper d'eux. Qu'est-ce que Satan fait? Il nous fait commettre le péché et il endurcit notre cœur. et il nous fait fuir Dieu, sachant qu'un enfant qui fuit ses parents est perdu, il est condamné à la mort et à la misère. Quand Satan vous fait pécher, il vous éloigne de Dieu. Vous n'avez plus envie d'aller à l'église. Vous avez peur qu'un message vous touche. Vous fuyez les chrétiens. Vous fuyez tous les gens qui sont des gens de bien. Satan vous pousse à fuir le Dieu pour vous rapprocher de l'enfer. Et votre vie devient un enfer. Et pour vous donner bonne conscience, vous tenez des discours creux. Bon, non, Dieu c'est dans le cœur de chacun. Chacun a son Dieu. Vous commencez à faire ce genre de niaiserie là. Dieu est partout. C'est dans mon cœur. Si je fais le bien, c'est que Dieu avec moi. Vous vous inventez plein de mensonges pour vous donner bonne conscience alors qu'en fait vous êtes en train de fuir Dieu. Vous avez envie de Dieu, mais vous ne savez plus comment le voir parce que vous savez que votre CV est grave avec lui. Et ce que Satan veut, c'est que vous fuyez comme ça toute votre vie. Sachant que tant que vous fuyez, vous allez souffrir. Quand vous fuyez Dieu, vous êtes dans les griffes de Satan. Lui ne demande pas mieux. Si vous voulez arrêter de souffrir, il faut vous rappeler que Dieu est miséricordieux. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dieu nous aime tellement que voyant nos péchés et ce que ça devait nous coûter, alors qu'il a dit que si nous commettons le péché, il va nous tuer. Mais nous aimons tellement qu'il ne voulait pas nous tuer. Il a envoyé son propre fils prendre la mort afin qu'il y ait eu punition, mais que nous n'ayons pas été punis. C'est encore lui qui a été payé le prix afin de se réconcilier avec nous. Parce qu'il sait que dehors nous sommes foutus et nous aime trop pour vouloir que nous soyons foutus. Et comme ce papa qui à minuit n'est plus fâché, Dieu n'attend pas de vous tuer. Il ne veut pas que vous alliez en enfer. Il ne veut pas que Satan gagne. Il veut que vous reveniez à la maison. Il veut que vous arrêtez de faire le malin, d'arrêter de fuir, de jongler, d'essayer et de perdre votre vie. Personne ne peut être sauvé si ce n'est pas la faveur de Dieu. Vous savez, c'est comme un sauteur, le saut en longueur là. Moi, je suis mauvais en saut en longueur. Si je saute trop, c'est 2 mètres. Mais il y a des gens qui sont forts. Le champion du monde doit peut-être faire 9 mètres ou bien 11 mètres. Donc par rapport à moi, c'est un grand champion. Mais admettons que nous sommes au-dessus de cet immeuble. Il y a un grand fossé et le prochain immeuble est peut-être à 100 mètres. Il y a le feu dans cet immeuble, on ne peut plus descendre. La seule manière de survivre, c'est de sauter d'ici sur le toit de l'immeuble prochain. Entre moi qui saute 2 mètres et celui qui saute 11 mètres, quand l'écart est de 100 mètres, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence? La seule manière d'être sauvé, c'est que quelqu'un vienne par hélicoptère vous prendre ici pour vous déposer là-bas. C'est pareil avec Dieu. Quelle que soit ta religiosité, quelle que soit ta manière de prier, ta sanctification, tu es peut-être un champion de 11 mètres. Mais pour être sauvé là, la distance est immense. Rien de tout ça ne peut jamais te sauver. Seule la grâce de Dieu peut venir te prendre et te sauver. Et pour ça, il faut que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Quand Dieu est quelque part, tout ce que Dieu est à cet endroit-là. Quand on demande à Dieu comment il s'appelle, il ne dit pas « je suis le Dieu qui fait ». Il n'est pas Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Dieu n'a jamais dit qu'il s'appelait comme ça.
Aide-moi.
Ça, c'est les noms que les hommes lui ont donnés en le voyant faire. Ils ont décrit ce que Dieu faisait qu'ils aiment. Mais quand on demande à Dieu comment il s'appelle, il dit, je suis celui qui suis. Il dit pas, je suis celui qui fait. Il dit, je suis celui qui suis. Il est. Il ne fait pas. Quand le soleil est, la lumière est, la chaleur est. Tu ne peux pas vouloir la lumière du soleil et la chaleur du soleil en ne voulant pas le soleil. Tu ne peux pas vouloir qu'il y ait de l'eau dans les champs en ne voulant pas de pluie. Si tu veux qu'il y ait de l'eau dans les champs, il faut que tu veuilles la pluie. Si tu veux qu'il y ait le jour, tu dois vouloir le soleil, y compris sa chaleur. Les chrétiens sont des gens qui veulent qu'il fasse jour sans qu'il y ait de soleil. Vous voulez que ce que la gloire de Dieu soit dans votre vie sans que Dieu n'y soit. Que l'or et l'argent soient dans votre vie sans que leur maître n'y soit. Vous voulez la paix sans vouloir le prince de paix. Vous voulez être éclairé, mais vous ne voulez pas de la lumière. Cette année, ce sera impossible. Cette année, si vous donnez le commandement de votre vie à Dieu, vous aurez tout ce que Dieu est. Si chacun de vos pas est fait en communion avec le Saint-Esprit, vous allez avoir tout ce que Dieu est. Et il mettra clairement la différence entre vous et tous ceux qui ne le connaissent pas. C'est le secret de cette année. Ne demandez pas beaucoup de choses à Dieu cette année. Parce qu'il dit que quand il veut vous bénir, il fera des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez bien, quand Dieu vous touche, ce qu'il fait dépasse ce que vous avez demandé. Il vaut mieux dire comme Jésus que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est la prière la plus puissante. Quand on a demandé à Jésus comment il faut prier, il n'a pas prévu dans le notre père quelque part où on dit ce qu'on veut. Parce que ce que Dieu veut est meilleur que ce que nous voulons. Que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il prenne le commandement. Et donc, que sa volonté, comme c'est lui qui règne, comme c'est lui qui conduit, soit faite dans sa vie. Il dit, c'est pour vous, j'ai des projets de bonheur et de paix. Je veux que vous soyez en bonne santé, que vous prospériez à tous égards comme prospérité à votre âme. Donc s'il règne dans ta vie et que sa volonté est faite, tu vas prospérer à tous égards. Ça veut dire dans le couple, dans le travail, dans la famille, dans l'onction. Cette phrase-là, bonne santé, prospérité à tous égards, si Dieu est là, tout est là. Ce que je te souhaite pour cette année, c'est que Dieu soit là. Ce que tu dois faire cette année, accroche-toi à Dieu comme Jacob. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Mets en pratique tout ce qui est écrit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu fais ça, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ne fais rien sans demander au Saint-Esprit s'il est d'accord. Ne fais rien sans écouter ton cœur pour voir si le Saint-Esprit l'agrée. Quand tu te réveilles chaque matin, un seul objectif, te connecter au Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit. Il dit, je vous instruirai, je vous dirai le chemin qu'il faut prendre, je briserai les verrous de fer sur votre chemin. Laisse le volant à Dieu. Je te souhaite cette année de laisser le volant à Dieu. Toi, tu voulais que ta voiture aille à Gla. Si tu laisses le volant à Dieu, il va t'amener à New York. Toi, tu ne peux même pas rêver d'aller à New York. Donc, ne l'oubliez jamais que cette année soit l'année de la communion avec le Saint-Esprit. Que cette année soit l'année où le Seigneur se manifeste en nous. Nous devons devenir des marionnettes de Dieu. Nous ne devons pas être des gens qui font ce qu'ils veulent en demandant à Dieu de les aider. Nous devons être des marionnettes auxquelles le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Vous devez demander à Dieu de travailler en vous, de travailler pour vous et de travailler par vous. Car quand Dieu prend le contrôle de votre vie, c'est d'abord pour vous, mais c'est aussi pour qu'à travers vous, il puisse bénir de nombreuses personnes. Que ce soit ce qui se passe dans votre année cette année, que Dieu prenne le contrôle de votre vie et qu'il mette clairement
la différence entre vous
et ceux qui ne le servent pas.
Et que cette année de communion avec le Saint-Esprit
soit la plus belle de vos années,
mais la moins bonne des années à venir.
C'est-à-dire, cette année doit être meilleure que toutes les années passées,
mais moins bonne que toutes les années à venir.
Parce qu'avec Dieu, nous allons toujours de gloire en gloire.
Amen.
Amen. Oui, wade, yon do chite logo se club Jésus pour réussir ton. De yino yito kan jiro si senko do kwi pako de non blo do akolo no zangbe badan lo. Ponte we meyon, ene asene no vite, akako nyan wuli ya. Club Jésus pour réussir yon, e do sente rita si ha men ton. Manon we do sansi donu de yon do MRS owe a gosin lobo kwe yon be FIFA di vele ya. Ki ha me a ton god wa do si to we kwe le yo. Anamo singo da ko de swa on ti vele bo yon singo wewe de. Fine we ye de. E non zon lobo yon lo ye ya. 94-97-07-07. Allo, allo ka 96-98-36-36. E kana chen we. Jezu ni do. 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 Jezu ni do.